Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Climat tendu au plateau de Bateke, non loin de la capitale, la commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa tire la sonnette d'alarme. Dans une conférence hier à Kinshasa, cette structure a dénoncé les tueries et pillages perpétrés par la milice Mobondo et interpelle le gouvernement congolais. Nord Kivu, conditions humanitaires catastrophiques pour une centaine de détenus de la prison centrale de Masisi. Alerte de la société civile locale, Téné, depuis janvier 2023, au moins 26 prisonniers sont décédés par manque de nourriture, des soins de santé et autres besoins vitaux, rapporte la même source. Et puis, l'invité de ce matin, Jean-Claude Draza, président du caucus des parlementaires de l'Ituri, il nous parle de la mission de service que vient d'effectuer une délégation des parlementaires de la RDC durant une semaine en Ouganda. Madame, Messieurs, bonjour. La commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa a lancé une sonnette d'alarme vendredi dans une conférence de presse au centre pastoral Lindongé à Kinshasa par rapport au climat de terreur qui règne actuellement dans le plateau de Bateke à quelques kilomètres de Kinshasa. La commission dénonce les tueries et les pillages perpétrés par ce qu'elle appelle la milice Mobondo et invite le gouvernement à prendre ses responsabilités pour anticiper sur les alertes en renforçant la présence des forces de sécurité dans tous les axes du plateau de Bateke. Les détails avec Jean-Pierre Elali Koko.
Dans son compte rendu, Maître Médard Mabayar, chef de village dans le plateau de Bateke, décrit la situation.
Les atrocités ont repris de plus belle. Les habitants du plateau de Bateke vivent aujourd'hui dans une angoisse sans pareil. Depuis deux jours, de nombreux habitants de Doumibife ne passent plus la nuit dans leur domicile, de peur d'être surpris et être tués par des impénitents Mobondo impunis.
Le père Fidèle Mangombe, aumônier de la commission justice et paix de l'archidiocèse de Kinshasa et curé de la paroisse Marie-Mère de l'Église dans la commune de Maluku, annonce un projet de réconciliation entre les communautés.
Kinshasa a lancé la mise en œuvre d'un projet intitulé « Promotion de vivre ensemble dans les communautés multiculturelles vivant au plateau de Bateke grâce à l'appui technique et financier de la Caritas Internationale Belgique. Et les changements auxquels on s'attend est de promouvoir la paix sociale entre les communautés d'origine différentes. »
Cependant, la mise en œuvre d'un tel projet ne suffirait pas à ramener la paix à elle seule. C'est pourquoi la Commission de justice et paix recommande au gouvernement, entre autres, de renforcer la sécurité dans tous les axes du plateau de Bateke en implantant des postes de police et des postes militaires dans des agglomérations à forte densité et d'instituer une nouvelle mission de pacification crédible pilotée par la société civile.
En Ituri, 10 députés provinciaux des territoires de Djougou et Irumu ont passé en revue hier le protocole d'accord pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale signé la semaine dernière à Aru par les leaders des groupes armés en Ituri. C'était au cours d'un café politique organisé par la section des affaires politiques de la MONUSCO à Bunia. Le but était d'échanger avec ces élus et recueillir leurs avis par rapport à ce protocole de cessation des hostilités. Ils ont recommandé le suivi régulier de la feuille de route pour l'application sans faille des engagements pris pour une paix durable en Ituri. Explication, Ezekiel Mouzalia.
Les élus de ces deux territoires ont passé à peine fin, point par point, les 10 actes d'engagement des groupes armés inclus dans le protocole de paix signé à Aru, à 260 km de la ville de Bunia. La plupart se sont attelés, par exemple, sur les points 6 et 8 de ces protocoles qui stipulent, je cite, « ne pas circuler avec les armes ainsi que des indices militaires, mais aussi ne pas entraver l'organisation du processus électoral. » Ce qui augure de l'espoir pour une paix durable en province, déclare Julie Adabaï, élue du territoire d'Irumu.
Notre première
l'impression assez de féliciter ce genre de cadre où au moins les groupes armés peuvent se retrouver et parler entre eux, et donc un déclencheur de l'ère nouvelle pour effectivement la paix en Ituri.
Pour son collègue Mugisa Biaru Fujak, élu de Djougou, le gouvernement doit lancer les opérations militaires de grande envergure pour contraindre les groupes armés à déposer les armes avant d'envisager un quelconque dialogue.
On commencerait d'abord par imposer d'abord l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous avons constaté, on est en train de faire le dialogue pendant que ces gens-là détiennent encore des armes.
Ces députés recommandent à la MONUSCO de faire un suivi régulier, notamment à leur desiderata pour la restauration de la paix en Ituri et les retours des déplacés dans leur milieu d'origine. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En plus bref, sachez qu'une commission d'enquête est mise en place par un arrêté ministériel du vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant, rendu public hier. Cette mission d'enquête devrait se pencher sur les exactions reprochées aux unités FARDC sur les sites de Kwamout dans la province du Maïndombe et à Goma dans le Nord Kivu. Cela fait suite aux plaintes et rapports émanant des différents partenaires, tant locaux, nationaux et internationaux, parvenus aux autorités, composées de 20 membres issus du ministère de la Défense, de l'État-major général et de l'inspectorat général des FARDC, de l'auditorat militaire près la haute cour militaire et de l'État-major des renseignements. La commission travaillera sur les deux sites à raison de 10 membres pour chaque site. Dans le territoire de Beni, la MONUSCO a installé 65 lampadaires sur la voie publique à Samboko, une localité située à une soixantaine de kilomètres de Beni. La cérémonie de remise officielle de ce projet à impact rapide a eu lieu hier vendredi. À travers ce geste, la MONUSCO entend aider à lutter contre l'insécurité dans cette localité, un retour progressif de la population est par ailleurs observé dans cette zone où il y a encore quelques mois était touchée par des attaques des EDF et Maïmaï. Marc Marofimbo revient de Samboko, voici son reportage.
L'exécution de ce projet est saluée par la population de Samboko. Selon la secrétaire de la Ligue des femmes locales, ces lampadaires installés dans toutes les avenues et lieux stratégiques vont aider à lutter contre l'insécurité dans cette localité. Myriam Kahambu parle également d'un projet qui renforce la collaboration entre la population et la MONUSCO.
Cet éclairage pourra réduire les cas d'insécurité des vols, mortiers et des viols et pourra faciliter la PNS et la FARDC à mieux contrôler les villes. Elle pourra étendre la collaboration et mariage entre la population et la MONUSCO.
Le chef de bureau de la MONUSCO Beni aborde dans le même sens. Selon Josiah Obat, ce projet va permettre à la population de vivre dans la quiétude. Josiah Obat.
C'est un projet qui rentre dans le cadre de notre lutte contre l'insécurité. Partout où on installe les panneaux solaires, l'insécurité est réduite.
En mars 2018, plusieurs groupes électrogènes des particuliers qui aidaient à l'éclairage des Samboko avaient été incendiés dans une attaque des EDF. Ce projet d'éclairage de la MONUSCO vient répondre à un besoin qui datait de 5 ans. Il a été exécuté pendant 3 mois par l'ASBL local, centre d'encadrement des jeunes et de promotion de l'entrepreneuriat et développement CEGED. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, au Nord Kivu, une centaine de détenus de la prison centrale de Masisi vivent dans des conditions humanitaires catastrophiques. La société civile de Masisi qui donne l'alerte indique que depuis janvier 2023, au moins 26 prisonniers sont décédés à la suite du manque de nourriture, des soins de santé et autres besoins vitaux. La société civile déplore en outre la suspension des activités des juridictions locales civiles et militaires à la suite de la situation sécuritaire dans le Masisi, ce qui comprend explique la situation des détenus. Mais qu'est-ce qui serait à la base de cette situation, Sifa Maguru?
Au moins 107 détenus, dont un seul condamné, se trouvent dans cette prison centrale de Masisi. La plupart de ces pensionnaires sont amaigris et incapables de se tenir debout, d'après les rapporteurs généraux de la société civile. En plus des conditions difficiles, cette structure évoque également l'absence de suivi des dossiers des détenus, ni la tenue des audiences afin de fixer leurs dossiers ou désengorger cette maison carcérale, a indiqué Telesfor Mitondeke dans une déclaration mercredi 7 juin.
Les prisonniers sont en train de mourir. de fait, faute des soins de santé, pendant que le gouvernement congolais alloue chaque trimestre une somme équivalente à 9 millions de francs congolais à cette prison. Plusieurs prisonniers sont alors squelettes vivants. Ce sont des gens qui ne peuvent plus se mettre debout. Faut noter les recommandations si après la reprise immédiate des audiences publiques au sein du tribunal de paix de Masisi.
Notez qu'à la suite des affrontements du M23 dans les territoires de Masisi, tous les magistrats et auxiliaires de justice de Masisi se sont déplacés à Goma pour se mettre à l'abri. Nous n'avons pas réussi à joindre le directeur de cette prison pour sa réaction. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Autre nouvelle, la société civile de Walikale et au Nord Kivu déplore depuis 2 semaines maintenant la suspension du trafic de vols sur l'aérodrome de Kigoma dans le territoire de Walikale. Motif, la non-homologation de cet aérodrome selon l'autorité de l'aviation civile AAC. La suspension des vols vient encore plonger le territoire de Walikale dans un enclavement total alors que les travaux sur la route Sake Masisi Walikale sont suspendus depuis plusieurs mois maintenant. Le point avec Sifamagourou.
C'est pour réduire l'enclavement de ces territoires, voire l'ampleur des conséquences économiques, humanitaires et sécuritaires que le gouvernement provincial du Nord Kivu avait financé les travaux de construction de cet aérodrome en développement de la voie aérienne. Mais voilà que peu de temps après, l'AAC vient de suspendre les vols sur cette piste. La société civile de Walikale demande la reprise immédiate des vols. Fiston Missona, son président.
Au directeur général de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo. 1. De lever dans l'immédiat la mesure de suspension d'atterrissage de vols commerciaux sur l'aérodrome de Kigoma Walikale. 2. De ne pas chercher à accorder le monopole de cet aérodrome à une seule compagnie d'aviation civile.
En réaction, le gouverneur militaire du Nord Kivu dit qu'une délégation de l'autorité de l'aviation civile séjourne à Goma quant à ce. Toutefois, le général Constant Dima pense que le processus est en cours en vue de décompter cette situation pour sa réouverture. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Province du Maniema, le gouverneur intérimaire annonce la reprise de la perception de la taxe péage route. Dans un communiqué du jeudi 8 juin, l'autorité provinciale fait savoir que cette taxe est attribuée désormais au service Fonds provincial d'aménagement des routes FOPAR et non à un autre service. Les agents attitrés seront commis dans les 48 barrières érigées sur toute l'étendue de la province du Maniema. Afani Idrissa Mangala invite les assujettis concernés par cette taxe de répondre à leurs obligations civiques. On écoute Maître Kassé Amayaliwa, directeur de communication et porte-parole du gouverneur intérimaire du Maniema. Il revient sur le contenu de ce communiqué, propos recueillis par Florence Kiza.
Communiqué officiel. Conformément au message officiel numéro 01-004-OKP-CAB-GP-MMA-2023-17 juin 2023. L'autorité provinciale, son excellence Afan Idrissa Mangala, porte à la connaissance de la population du Maniema la reprise de la perception de la taxe péage route pour mobiliser les fonds nécessaires à la réhabilitation des routes. Cette taxe sera exclusivement perçue par les services du Fonds provincial d'aménagement des routes FOPAR en sigle et uniquement aux barrières érigées pour cette fin avec du matériel approprié et sécurisé. Il est donc interdit à tous les agents des autres services de procéder à la perception de la dite taxe. Les contrevenants s'exposent à des poursuites exemplaires. Participer aux charges publiques est un devoir civique et une preuve de civisme. Fait à Kindu le 8 juin 2023.
Dans l'actualité, notez aussi que la semaine minière de la RDC ou le DRC Mining Week démarre le 14 juin prochain à Lubumbashi. Certains partenaires à cet événement, parmi lesquels les banquiers, les miniers et la Fédération des entreprises du Congo dans le Haut-Katanga, étaient hier devant la presse à Lubumbashi pour ce faire. À cette occasion, le directeur provincial de la FEC Haut-Katanga a indiqué que la sous-traitance dans le secteur minier a beaucoup évolué. Cependant, certains bénéficiaires des contrats de sous-traitance ne réinvestissent pas leur argent au Congo. Ainsi, les efforts doivent être fournis pour changer la donne, a-t-il souligné. Les propos de Jean-Luc Mpoyo, directeur provincial de la FEC au Katanga, recueillis par Jean Gandou.
L'accès des Congolais à la sous-traitance a sensiblement augmenté dans le secteur minier. On a certainement créé des millionnaires congolais. Mais où sont-ils ces millionnaires? Comment faisons-nous pour que les millionnaires congolais réinvestissent au Congo pour que nous puissions les voir? Généralement, ils prennent de l'argent dans le secteur minier, ils vont investir ailleurs. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas de millionnaires congolais, alors que le secteur minier a créé énormément de millionnaires. C'est facile de constater que les entrepreneurs congolais ne se développent pas. Et donc, nous avons la responsabilité de travailler avec tout le monde pour former des entrepreneurs congolais afin qu'ils aient des meilleurs rapports avec l'argent, avant qu'ils ne reçoivent l'argent de la banque, pour que ceux qui vont accéder au financement demain soient des meilleurs entrepreneurs dans 5-10 ans. Un des défis que nous avons dans l'entrepreneuriat congolais, c'est que beaucoup d'entrepreneurs congolais ne parviennent pas à réinvestir leur argent. Dès qu'ils en ont, ils disparaissent. Et pire encore, il y en a, dès qu'ils ont un contrat, ils disparaissent, et avec l'argent, sans fournir le travail pour lequel ils ont été payés.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Burkina Faso. Les services de sécurité en proie à des violences djihadistes récurrentes ont publié jeudi une liste de 20 terroristes activement recherchés, offrant des primes pour leur arrestation ou leur neutralisation, primes allant de 150 000 à 275 000 euros. Les individus dont les portraits ont été diffusés sur les médias locaux sont activement recherchés pour participation ou complicité dans la planification ou la conduite d'actes terroristes.
L'invité.
Une délégation des parlementaires de la RDC vient de clôturer une mission de service d'une semaine en Ouganda, envoyée par les deux chambres du Parlement congolais. Ces élus, en majorité originaires de l'Ituri, ont échangé à Kampala avec le président Yoweri Museveni de l'Ouganda, ainsi que plusieurs officiels sur les aspects sécuritaires et socio-économiques entre les deux pays voisins. Qu'est-ce qui ressort de cette mission parlementaire? Le député Jean-Claude Draza, président du caucus des parlementaires de l'Ituri, s'entretient à ce sujet avec Martial Kizabiamungu.
Honorable Jean-Claude Draza, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous étiez à la tête d'une délégation de parlementaires congolais qui vient de clôturer une mission en Ouganda. Quel était l'objet de votre mission dans ces pays?
Et c'était dans le cadre des contacts officiels avec les parlementaires ougandais du bassin du Nil dans le cadre de la diplomatie interparlementaire.
Alors, qu'est-ce qui ressort de vos échanges avec les différentes personnalités ougandaises, notamment les présidents de la République, Yoweri Museveni, et les parlementaires ougandais de la région de West Nile à la frontière avec la RDC?
Nous avons échangé autour de l'aspect sécuritaire, parce que vous êtes sans ignorer que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait signé un accord avec le président Yoweri Museveni Kaguta dans le cadre de la mutualisation des forces UPDF et FARDC dans le sud du Rouma, province de l'Ituri. Il y a eu un peu d'accalmie par rapport à travaux de cette force mutualisée dans le sud du Rouma. Et pour cela, nous avons félicité nos deux leaders, et que pour nous, il fallait, avec les constats que nous avons faits, continuer à étendre et la zone d'action de la force mutualisée, parce que nous avons constaté qu'en exerçant la force sur l'ennemi, là où l'ennemi était, maintenant l'ennemi a fui et que l'ennemi opère ailleurs. Il fallait proposer que cette même force mutualisée puisse poursuivre l'ennemi jusque là où l'ennemi est en train d'opérer. Et le deuxième point, c'est sur le plan économique que nous avons rappelé à son Excellence Monsieur le Président Gandé, et surtout avec d'autres officiels que nous avons rencontrés, mettre en exécution les deux contrats qui ont fait l'objet d'une signature entre les deux États, notamment la construction de la route Nebigoli-Magi-Bunia-Komanda, aussi et l'électrification des territoires d'Aru, de Magi, d'Irumu, même la ville de Bunia, en passant à la ville de Bunia pour aller dans le Haut-Touéré. Et en troisième lieu, nous avons parlé de l'aspect diplomatique. Il avait plu aux deux chefs d'État de donner leur aval pour l'installation de Kosila à Bunia et en Ouganda, à Arua précisément. Et le président de la République nous a garanti qu'il mettra en application tous ses accords avec l'échange avec son collègue.
Alors, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de cette mission d'une semaine dans les pays de Museveni?
D'abord, mettre fin aux activismes de l'ADF dans le sud du Rumu. Nous pensons qu'avec ces plaidoyers, les choses vont changer. Et la militarisation va changer la manière de travailler et que l'ennemi sera poursuivi jusqu'à son dernier retranchement. La construction des routes ainsi que l'installation du courant électrique constituent les deux faits majeurs pour le développement d'une entité. La route va aussi attirer beaucoup d'investisseurs, mais aussi l'électrification va attirer les investisseurs dans notre province. L'ouverture des consulats à Bounia et à Arua va aussi faciliter sérieusement les opérateurs économiques de cette province.
Rapidement pour terminer, vous avez également rencontré l'ambassadeur de la RDC en Ouganda et la diaspora congolaise dans ce pays voisin. Quels sont les problèmes qui ont été évoqués et leurs attentes vis-à-vis du gouvernement de la RDC?
Et nous étions marqués très positivement parce que nous y avons trouvé d'abord premièrement l'organisation. Seulement quelques plaintes par rapport au cas isolé d'arrestation. Mais ce qui nous a marqué, c'est qu'on nous a fait savoir qu'aujourd'hui, c'est la RDC qui vient à la deuxième position après le Sud-Soudan au nombre très élevé de réfugiés en Ouganda. La seconde information que nous avons reçue est que en Ouganda, il y a 7 écoles primaires congolaises. Mais la plupart des cas, ce sont les enfants réfugiés congolais qui y étudient. Et ces écoles sont organisées selon les normes de la République démocratique du Congo. Et la langue d'enseignement, c'est la langue française qui est maintenue. Pour la diaspora congolaise, c'était un seul plaidoyer, peut-être revenir vers le gouvernement pour que le gouvernement congolais tienne aussi compte de la diaspora congolaise en Ouganda parce que selon ces Congolais qui sont là-bas, le gouvernement ne tient pas compte d'eux, le gouvernement ne leur envoie rien, le gouvernement, même s'il y a des réunions, ils sont plutôt formés par les voix des ondes que le gouvernement reçoit une diaspora de tel pays ou de tel autre, mais eux, ils n'ont jamais reçu une invitation dans ce sens-là.
Honorable Jean-Claude Drazard, je vous remercie. Merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le président du caucus des parlementaires de l'Ituri répondait aux questions de Martial Kizabiamungu. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.